Est-ce qu'au fond de vous-même, vous vous dites, j'aurais mieux fait de me taire?
Oui. Oui, et sans hésiter, j'allais vous dire, est-ce que ça justifie le sacrifice? La réponse est non. Donc non seulement je ne leur ferai pas, j'aurais mieux fait de me taire.
C'est une expression qui s'est popularisée ces dernières années, notamment avec le périple d'Edward Snowden. Ce sont les lanceurs d'alerte. Héros des temps modernes pour les uns, traîtres pour les autres, le cas de cet informaticien américain est emblématique. Autant adulé que détesté, il vit désormais sous protection en Russie. Edward Snowden a divulgué des milliers de documents pour révéler au grand jour les détails d'un programme de surveillance de masse aux États-Unis.
Savez-vous quand vous serez prêt à vous exprimer publiquement? Je suis prêt à le faire n'importe quand. Je ne veux pas sortir de l'ombre trop tôt et détourner l'attention du contenu des articles.
Il existe une définition précise pour qualifier ce qu'est un lanceur d'alerte. C'est un citoyen qui signale une menace ou un préjudice au nom de l'intérêt général. C'est monsieur ou madame tout le monde qui peut alors se retrouver en pleine tempête.
C'est une affaire humaine, c'est pas une gestion de... Bon, je suis pas un professionnel de l'alerte, je suis un citoyen qui en a lancé une, c'est tout.
Évasion fiscale, scandale sanitaire ou questions environnementales, blanchiment d'argent, des méthodes délictueuses de multinationales, de banques ou même d'États ont déjà été dénoncées grâce aux lanceurs d'alerte. Sauf que ceux qui portent ces informations à notre connaissance en payent le prix fort.
Le fait de témoigner aujourd'hui à visage découvert m'a coûté ma place.
En France, une loi votée il y a déjà 2 ans est censée les protéger, mais est-elle suffisante pour leur éviter un retour de bâton? Bien souvent, ceux qui dénoncent sont vus comme des salariés déloyaux, mis à l'écart pour avoir parlé et pour avoir donc agi dans un souci de justice et de transparence. Lanceur d'alerte, parole à haut risque, c'est un reportage de Jérôme Jadot et François Rivalan.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Tournez à gauche sur place de l'hôtel de ville, puis tournez à gauche sur le village.
Voilà, donc on arrive à La Chapelle en Vercors, petit village de 600 âmes posées sur les hauts plateaux ici dans la Drôme. En face de nous, la jolie petite église en pierre blanche. C'est l'heure de la messe.
Le prêtre qui officie derrière l'autel, c'est Pierre Vignon, crâne dégarni, lunettes, barbe grise, forte taille, sous sa soutane verte. Pierre Vignon, il a demandé publiquement, dans une lettre ouverte, le 21 août dernier, la démission du cardinal Barbarin. Cardinal Barbarin qui est poursuivi pour ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles dans son diocèse. Et quelques semaines après cette lettre, le 1er novembre, Pierre Vignon a perdu sa charge de juge ecclésiastique à Lyon.
Avant de vous donner la bénédiction, je vais mettre mal à l'aise le jeune homme qui est à votre droite. Et donc il s'agit de Jérôme Jadot qui fait un reportage pour France Inter. Donc s'il s'approche de vous à la sortie de la messe, faites-lui bon accueil, c'est un garçon très sympathique. Nous nous levons pour la bénédiction.
Voilà, c'est la sortie de la messe, on va aller voir quelques fidèles.
Gildas Porcheron, et je suis habitant à Saint-Martin depuis 11 ans maintenant, et c'est Pierre qui nous a accueillis.
Vous savez ce qui lui est arrivé?
Tout à fait.
Est-ce que vous trouvez ça justifié, le fait qu'il perde sa charge de juge ecclésiastique?
Non, c'est ce qu'on était en train d'évoquer avec madame, c'est que en fait, il y a des gens, pour que l'Église puisse changer, il y a un moment où il faut taper du poing sur la table. Et ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'être capable d'essayer de faire bouger en fait l'Église d'aujourd'hui, avec je vais pas dire des brontosaures, mais presque des gens qui ont la communication dans le sang, mais qui ont oublié ce que devait être l'Église, c'est-à-dire le rassemblement de l'ensemble des chrétiens. et cacher les problèmes, c'est pas une solution. Si on relit l'évangile, on s'aperçoit que non, tout ce qu'on a essayé de cacher sera un jour mis à jour. Et ce que Pierre a fait, c'est mettre à jour quelque chose. Voilà.
C'est un lanceur d'alerte en quelque sorte.
C'est totalement un lanceur d'alerte, et qui va dans le sens de ce que nous dit le pape. Le pape François dit « Faites bouger, ramenez l'Église vers sa mission », et c'est exactement ce qu'il fait.
Il y a un message qui est envoyé aux hommes d'Église, selon vous, avec cette décision ?
Oui, taisez-vous. Ne faites rien qui puisse empêcher le fonctionnement tel qu'on a l'habitude de le voir. Or, c'est pas ce qui doit arriver aujourd'hui, au début du XXIe siècle.
Vous souhaitez sa réhabilitation, comme le demande une pétition ?
Clairement.
Bonjour.
Enchanté.
J'ai la clé du presbytère. On va y aller, on sera tranquille.
Alors, vous n'habitez pas ici, hein, mais vous venez y célébrer la messe tous les dimanches.
Voilà.
Vous êtes à Saint-Martin-Vercors.
Je m'appelle le père Pierre Vignon. J'ai 64 ans. Ça fait 38 ans que j'ai la joie d'être prêtre.
Pierre Vignon, le 21 août dernier, vous avez pris la plume pour demander publiquement la démission du cardinal Barbarin. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
Qu'est-ce que c'est précisément ce que j'ai dit ? C'est ça suffit. J'avais déjà dit de façon privée au cardinal Barbarin, puisque c'est lui mon archevêque métropolitain à Lyon. Il a reconnu lui-même d'ailleurs les graves erreurs de gestion dans l'exercice de sa fonction à propos de ces questions-là. Toujours est-il que le système épiscopal fait « Oui, bien sûr, il y a un problème, mais vous inquiétez pas, nous vous avons pensé, nous réglerons, etc. » Or, ce système d'enlisement dans l'huile bénite bien ne fonctionne plus aujourd'hui. Et alors c'est là où moi j'ai dit, mais ça suffit, arrêtez de vous justifier, arrêtez de dire que vous avez tout pensé, que vous avez tout vu, que vous avez tout fait, d'autant plus qu'à chaque fois il sort de dessous le tapis et des placards des évêchés de nouveaux cadavres. Quand on fasse l'inspection des placards, qu'on soulève les tapis des évêchés, qu'on les secoue, après ça ira beaucoup mieux. Et le cardinal Barbarin, il n'a pas su aller au-devant des victimes, il les a tout de suite considérés comme des adversaires. Donc, il s'est mis en position défensive. Et il a loupé le coche à tout jamais. Donc moi, ce que j'ai dit au cardinal, c'est « Vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse, c'est pas vous qui pouvez aller au-devant des victimes. Et il faut les rejoindre. Il faut donc laisser la place à un autre. » Et c'est ça qui a eu un écho extraordinaire.
Vous pouvez nous lire peut-être un extrait de la lettre que vous avez publiée en août.
Je vais lire le troisième paragraphe, si vous voulez bien. Donner votre démission de cardinal et d'archevêque serait bien sûr une mort sociale, mais quelle assomption personnelle en retour, vous seriez enfin à la hauteur de l'événement.
Le 1er novembre, vous apprenez que vous perdez cette charge de juge ecclésiastique. Vous le vivez comme une sanction ?
Eh bien, c'est évident.
Vous faites le lien entre cette décision et votre prise de parole publique demandant la démission du cardinal Barbarin.
Ah ben, je vais dire à moi d'être aveugle et de se crever volontairement les yeux, voilà, c'est évident. J'étais un gêneur pour lui, et il voulait évacuer un gêneur. Mais il s'y est très mal pris.
Est-ce que vous avez eu des soutiens dans l'Église ?
Dans l'Église, j'ai eu beaucoup de soutiens, mais je comprends tout à fait que nombre de personnes ne veuillent pas se signaler. J'ai eu y compris des soutiens d'évêques. Et beaucoup de ces messages disent « Tiens bon, nous on peut pas le faire, mais vas-y ». Mais vous savez, vous pouvez le faire aussi, hein ? Pourquoi on devrait tout faire en secret, rien dire, par derrière, vous comprenez, notre image. Ma voix se fait entendre du haut de ma montagne, et ben je chante.
Tournez à droite sur rue Château Vert, puis tournez à droite sur rue Voltaire.
J'attendais que vous m'appeliez sur mon portable.
Mais j'allais le faire, bonjour.
Bonjour, attendez, je vais vous ouvrir. Ça y est. Voilà. Bon, eh ben, je vous dis au revoir.
Ben, merci. Ben, bonne
merci
fin de dimanche.
Merci d'être passé. Hein.
Que Dieu prie pour nous.
Voilà, tout à fait.
Sur nous.
Bon, alors, venez, on va aller dans mon bureau. Voilà. Pierre-Yves Michel, je suis l'évêque de Valence, dans la Drôme. Bon, ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Pour quelle raison Pierre Vignon n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de juge ecclésiastique à Lyon le 1er novembre ?
Alors, c'est une réflexion qu'on a menée les évêques de la province de Lyon et avec ensuite à Lourdes, on a pu discuter aussi avec les évêques de la province d'Auvergne. Voilà, il nous a semblé que, étant donné la démarche du père Vignon, il y avait comme une rupture de confiance. Et donc, pour une mission de juge à l'intérieur de l'officialité, c'était préférable de cette façon-là.
Pourquoi rupture de confiance ?
Eh ben, ça, je pense que ça se comprend. Voilà, quand un juge qui dépend de l'officialité fait cette démarche, alors il y a une vraie liberté de parole.
Vous dites liberté de parole, mais existe-t-elle vraiment si on est déchargé de ses fonctions, si on dit quelque chose qui ne plaît pas ?
C'est pas sur ce registre-là. C'est-à-dire que moi, je pense que très clairement, je lui ai dit d'ailleurs au père Vignon que voilà la manière de procéder, il y avait un désaccord. Mais justement, on a été, enfin moi, j'étais attentif à ce que ça tout ne se fasse pas. Il y a deux étapes différentes. Hein, il me semble que l'expression du père Vignon n'a pas du tout été entravée dans le moment où il l'a fait. Après, ben, forcément, il y a aussi des conséquences, mais qui apparaissent plusieurs mois plus tard. Voilà, je crois que c'est un des signes que on est sur deux registres différents. Il y a d'une part une liberté de parole, et il y a d'autre part des questions de cohérence par rapport à une mission.
Ça s'appelle une sanction.
Non, non.
Vous dites que la décision a été prise par les évêques d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Certains d'entre eux n'étaient pas au courant le jour où ça a été annoncé.
Oui, ça s'est fait en plusieurs temps, effectivement. Ça s'est fait en plusieurs temps.
Mais la décision a été annoncée alors que certains évêques n'étaient pas au courant.
Et effectivement, là, il y a eu un dysfonctionnement, oui. Oui, ça arrive, enfin, ça arrive dans un certain nombre d'institutions, ça arrive aussi dans l'Église.
Ce qui fait dire à Pierre Vignon que c'est le cardinal Barbarin lui-même qui a pris cette décision.
Ben, il faut lui laisser la responsabilité de son appréciation.
Vous êtes arrivé à Marseille-Saint-Charles. Terminus du train. Les voyageurs descendent de voiture.
Très souvent, les représailles à l'encontre des lanceurs d'alerte s'exercent au niveau professionnel. C'est ce qui arrive à Ella Kerrieff. Ella Kerrieff, aide-soignante marseillaise qui a perdu son emploi en septembre, juste après avoir dénoncé les conditions de vie dans une maison de retraite. Depuis, elle a énormément de difficultés à retrouver du travail. Elle a déjà bien entamé les 4 mois et demi d'allocation chômage auxquels elle avait droit.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bonsoir, des familles, des soignants indignés par les conditions de vie dans les maisons de retraite privées nous ont interpellés il y a quelques mois. Alors nous sommes allés enquêter partout en France.
Oh non !
C'est un document exceptionnel, maintenant, dans Envoyé spécial.
Alors moi je suis Ella Kerrieff, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants et j'exerce la profession d'aide-soignante depuis maintenant 8 ans.
Ella Kerrieff, vous avez témoigné dans un reportage d'Envoyé spécial sur le manque de moyens, le manque de personnel dans certaines maisons de retraite. Vous avez filmé aussi dans un de ces établissements, le reportage a été diffusé le 20 septembre. Que vous est-il arrivé ensuite ?
Bah alors suite au reportage, c'est jamais officiel, hein, mais... ça reste troublant. Suite à ce reportage-là, l'hôpital pour lequel je travaillais a mis fin à ma période d'essai. Il m'a contacté donc le lendemain de l'émission pour me prévenir qu'il m'attendait à son bureau le 24 septembre, donc 3 jours après l'émission, pardon.
Cet établissement, c'est pas celui dont vous parlez dans le reportage.
Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'établissement dont je parle dans le reportage. C'est un hôpital privé. Et dans le reportage, on parle bien d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc des maisons de retraite.
Vous aviez été embauchée en CDI 20 jours plus tôt ?
J'ai été embauchée en CDI 20 jours plus tôt. Et depuis 2 ans, je faisais énormément de missions en CDD, des remplacements, des CDD, des vacations pour cet établissement-là.
Donc le lendemain, on vous appelle, on vous convoque 3 jours plus tard. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
On me dit, voilà, on va mettre fin à la période d'essai. Alors là, je tombe des nues, je comprends pas ce qui se passe. Je lui demande pourquoi. Il me dit, on n'est pas obligé de justifier le motif. On met fin à la période d'essai, ça s'arrête là. Alors là, je lui dis, mais c'est quand même troublant. Vous m'appelez le lendemain de l'émission. J'ai jamais fait de faute. Vous m'avez quand même demandé à plusieurs reprises de signer le CDI. Vous m'aviez voulu, j'ai voulu travailler chez vous. J'ai jamais rien fait de négatif. Je comprends pas. Est-ce que c'est lié à l'émission ? Et là, le cadre de santé ne me répond pas. Il hausse simplement les épaules et je vois qu'il est quand même peiné dans son regard. Il est peiné et il me dit, je suis désolée. Et là, c'est pas moi qui a pris cette décision-là, c'est le directeur. Et comme il me le répétait, c'est une période d'essai, ils n'ont pas besoin de se justifier.
Le cadre de santé qui a renvoyé la Kerief, c'est Pascal Perrin, directeur des soins adjoints à l'hôpital Vercoteau de Marseille. Nous avons tenté de le joindre.
Hôpital Vercoteau, bonjour.
Oui, bonjour, je cherche à joindre Pascal Perrin, s'il vous plaît.
Un instant, j'essaye de vous transférer, hein, voici.
Allô ?
Oui, bonjour, Pascal Perrin ?
Oui.
Oui, bonjour, Jérôme Jadot, je suis journaliste à France Inter. Je me permets de vous passer un coup de fil, je cherche à avoir des précisions sur les raisons qui vous ont poussé à mettre un terme à la période d'essai d'Ella Kerief, qui était aide-soignante chez vous.
Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur.
C'est vous qui lui avez signifié la fin de sa période d'essai ?
Bah non, je ne pense pas.
Pascal Perrin a pourtant bien co-signé la lettre qui met un terme à la période d'essai d'Ella Kerief.
Voilà, faudra vous adresser à la direction, docteur Thiré. Voilà, au revoir, monsieur.
Nous transférons votre appel.
Allô ?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, Jérôme Jadot, à France Inter. Je cherche à joindre monsieur Thiré, s'il vous plaît.
Vous avez déjà appelé en début de semaine ?
Tout à fait. J'ai pas eu de retour.
Ah, ben je suis désolé, je lui ai communiqué le message, je ne peux pas faire plus.
Est-ce qu'il est possible de me le passer simplement un instant ?
Non, parce qu'il n'est pas dans la structure.
D'accord. Est-ce qu'il est possible de le joindre dans la structure où il est, d'une manière ou d'une autre ?
Oh, ben écoutez, je vais lui communiquer votre message, parce que je ne sais pas exactement où il se trouve, donc je vais m'en enquérir.
D'accord. Ok. Vous pouvez lui demander de me rappeler, du coup ?
Oui, je lui demanderai de vous rappeler, voilà.
Bon.
Il le fera si le juge est nécessaire, je suppose.
Ok.
Merci, au revoir, monsieur.
Au revoir. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit à votre éviction ?
Selon moi, le fait de témoigner aujourd'hui à visage découvert m'a coûté ma place au sein de cet hôpital, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, les boîtes d'intérim pour lesquelles j'ai l'habitude de travailler ne me proposent plus de mission et je n'arrive pas à retrouver du boulot, malgré que j'ai une démarche active de recherche d'emploi au quotidien. Je dépose énormément de CV, de l'aide de motivation et je n'ai aucun retour. Et on sent bien quand même qu'il y a une pénurie d'aides-soignants et ça, j'arrive pas à le comprendre.
Vous nous emmenez dans l'agence d'intérim qui vous fait travailler, qui vous faisait travailler habituellement ?
Oui, on y va.
Bonjour.
Bonjour. Jérôme Jadot, je travaille à France Inter. Je m'accompagne Ella Kerief, qui est enregistrée chez vous.
Ouais.
Et on cherche à savoir pourquoi elle n'a plus de mission depuis la fin du mois de septembre. On voudrait avoir quelques explications.
Dans quel domaine ?
La santé.
Ah oui, la santé. Vous m'avez dit votre nom ?
Kerief.
Kerief.
Vous avez du travail en ce moment ?
Je pose des candidatures spontanées à une maison de retraite,
ouais.
Une clinique. Et puis après, en fonction, on m'appelle.
D'accord. Mm. Du coup, vous travaillez à quelle fréquence là en ce moment ?
Si vraiment on veut se donner à fond, on peut travailler tous les jours en fait. Hein.
Ils finissent quelque chose et puis ils arrivent.
C'est gentil, merci.
Je suis le directeur de l'établissement.
On cherche à comprendre pourquoi la plus de mission.
Et donc vous êtes en train de penser peut-être que suite à ça, madame est blacklistée.
Non,
non,
c'est pas le sujet.
Juste tout simplement. Et il y a,
mais c'est pas la peine.
Pourquoi est-ce que en moi, je vous dis, je ne reçois plus aucune mission de votre part?
Parce que actuellement,
il y a plus de, demandes.
C'est calme.
D'accord,
c'est
calme.
Très calme. Après ce que j'ai compris,
mais vous me dites que c'est calme.
C'est absolument pas lié au fait que vous ayez fait une émission, un témoignage ou autre. Ça, on en a rien à faire, nous. Nous, ce qu'on détache chez nos clients, ce sont des compétences. Les compétences, vous les avez, donc vous travaillerez. Des compétences comme madame, on n'en a pas beaucoup.
Donc il devrait y avoir du travail pour tout le monde.
Il devrait y avoir du travail pour tout le monde.
Est-ce que certains clients à vous, eux, pourraient avoir plus de réticence et vous dire, bah voilà, cette personne qui a témoigné dans les médias, on n'en veut pas
parce pour avoir ce genre de réponse, je pense qu'il faut interroger l'établissement en question. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre à leur place.
Bon, voilà, oui, parce que moi, j'ai...
Merci de nous avoir répondu.
Merci.
Oui.
Nous nous rendons justement dans un établissement où Ella Kerrieff avait failli travailler, une maison de retraite où elle avait été appelée pour une vacation le 24 septembre, 4 jours après la diffusion d'Envoyé spécial. Elle s'y était présentée pour prendre son service, mais quelques minutes après son arrivée, sa mission a été annulée, sans justification. Elle a été dédommagée pour le déplacement.
Moi, j'ai adoré la première fois que je suis venue.
L'extérieur est plutôt agréable, hein, y a un petit jardin... Il y a quelques personnes âgées qui prennent le soleil.
Bonjour.
On est juste à côté de la salle de réfectoire où il y a une vingtaine de personnes âgées qui prennent leur déjeuner.
Pas du tout, je suis la directrice d'établissement.
Bonjour madame.
Bonjour.
Jérôme Jadot, je travaille à France Inter. Je me permets d'accompagner.
Moi, je refuse d'être enregistré.
Alors la directrice n'a pas voulu nous répondre au micro. Elle assure que ce jour-là, une autre salariée en interne avait finalement pu se rendre disponible. La directrice explique aussi ne pas adhérer à la méthode employée par Ella Kerrieff, dénoncer des dysfonctionnements via les médias. Ces choses-là se règlent en interne, dans l'entreprise, selon elle. Et si ça ne se règle pas, eh bien, le ou la salariée n'a qu'à quitter l'établissement.
Peu d'aides soignantes acceptent de témoigner à visage découvert.
On regarde l'extrait d'Envoyé spécial. Hein.
A pourtant osé le faire pour lancer l'alerte.
Cette nuit-là, elles sont deux aides soignantes pour 94 résidents. Ella affirme avoir une cinquantaine de pensionnaires à sa charge. La plupart d'entre eux semblent livrés à eux-mêmes.
Ça fait combien de temps que vous attendez, madame ?
Oh, ouais, demi-heure.
Mais je vais déjà accompagner la dame, là. D'accord ? Parce que je ne vous connais pas et je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Je suis simplement remplaçante.
Est-ce qu'en gardant le reportage, vous regrettez d'avoir parlé ? Au contraire, ça vous conforte ?
Non, ça me conforte. Ça me conforte, même si je... À vrai dire, j'essaie de ne le regarder le moins possible. Parce que je suis toujours émue, mais ça me conforte parce que moi-même, face à ce que je vois, j'ai envie de pleurer à chaque fois. Donc je me dis qu'heureusement que je l'ai fait. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde sache.
Depuis notre passage à Marseille il y a un mois, Ella Kerrieff n'a toujours pas obtenu de mission via son agence d'intérim. Grâce à l'entremise de son syndicat, elle a retrouvé cette semaine quelques vacations dans un hôpital privé marseillais. Des garanties de discrétion lui ont été demandées.
Nicole Marie Meyer, je suis responsable de l'alerte éthique auprès de Transparency International France, ONG de lutte anticorruption.
Les cas de lanceurs d'alerte sanctionnés après avoir dénoncé des dysfonctionnements, ils ne sont pas isolés. Pourtant, il y a 2 ans, il y a une loi qui a été votée, la loi dite Sapin 2. Est-ce qu'elle va assez loin ?
Alors, la loi dite Sapin 2, elle apporte la plus grande définition, enfin la définition la plus ouverte au monde, puisque sont protégés non seulement le signalement des crimes ou délits, violations de la loi nationale ou internationale, mais aussi, et c'est vraiment important, toute menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Donc par exemple, optimisation fiscale agressive, par exemple, un Antoine Deltour. Voilà, donc la définition la plus ouverte au monde avec menace ou préjudice pour l'intérêt général. Elle apporte la réparation intégrale des dommages avec le fait que le juge peut prononcer la réintégration dans l'emploi et dans le public et dans le privé. Elle apporte des sanctions civiles et pénales pour les auteurs de représailles, c'est-à-dire entrave à tout signalement, tout type d'entrave au signalement, mais aussi rupture de confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte ou bien procédure abusive en diffamation. Elle apporte une procédure claire et sécurisée pour faire un signalement. Et elle apporte une autorité indépendante, qui est la plus haute autorité indépendante française, constitutionnelle, le défenseur des droits, qui est chargé d'orienter et de protéger les lanceurs d'alerte.
Cette loi dite Sapin 2, elle prévoit une procédure pour le lancement de l'alerte. D'abord, saisir son entreprise. Ensuite, si pas de réponse, les autorités publiques, par exemple le procureur. Et si pas de réponse, les médias. Est-ce que ça, c'est pas une limite dans la protection des lanceurs d'alerte ?
Oui, c'est une limite, mais en même temps, non, ça n'est pas aussi grave qu'on le croit généralement, parce que notamment pour les crimes ou délits, vous avez le droit de, et c'est très large les crimes ou délits, vous pouvez saisir immédiatement les autorités compétentes. Ensuite, vous avez toujours le fait qu'en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommage irréversible, procédure d'urgence, vous allez où vous voulez.
Cette loi Sapin, elle est censée empêcher les représailles contre ceux qui dénoncent des dysfonctionnements. Est-ce qu'elle a déjà produit des effets ?
Alors, il y a eu des jurisprudences favorables en 2017 et 2018 et on a vu notamment deux grosses jurisprudences avec des personnes qui avaient été licenciées pour signaler des crimes ou délits, ce qui a donné notamment pour une jurisprudence l'intégralité des salaires, c'est-à-dire 100 mois de salaire plus la réintégration. Donc on a une dizaine ou une douzaine de jurisprudences où on a même utilisé la loi Sapin 2 sur des cas des alertes qui avaient et des licenciements antérieurs à la loi Sapin 2.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de temporalité entre le moment où les sanctions sont prises contre ces salariés, licenciement, initiation de poursuites, notamment en diffamation, et la réponse judiciaire qui intervient souvent plusieurs mois, voire plusieurs années après ?
Il y a le droit de demander immédiatement un référé au juge, c'est-à-dire de faire traiter, par exemple, les licenciements de façon extrêmement rapide. Si vous faites une alerte, que vous vous retrouvez en procédure de licenciement, vous saisissez le juge des référés, vous saisissez le défenseur des droits. Vous avez un parapluie qui s'ouvre et vous avez le juge qui peut effectivement geler et vous conserver dans votre emploi. Donc le problème, c'est que les citoyens doivent se saisir de leurs droits et des acquis de la loi Sapin 2.
Cette législation protectrice de ceux qui signalent les dysfonctionnements, même si elle est encore imparfaite, elle s'est fondée sur les expériences, souvent malheureuses, des premiers lanceurs d'alerte. Des pionniers, parmi lesquels on trouve James Dunn.
Bonsoir.
Il a connu plusieurs années très difficiles après ses dénonciations.
Les entreprises françaises ont-elles vendu des systèmes de surveillance électronique à la Libye ou bien à la Syrie pour espionner leurs opposants ? Le Conseil des Prud'hommes examinait hier le cas d'un salarié licencié par la société Cosmos, un salarié qui justement reproche à son ex-employeur d'avoir fait commerce avec des dictatures.
France Inter. James Dunn, vous êtes un ancien salarié de l'éditeur français de logiciels Cosmos. Vous avez dénoncé l'implication de votre entreprise dans des systèmes d'espionnage utilisé par les régimes syriens et libyens. Vous avez été licencié, c'était fin 2012. Vous avez également été poursuivi en diffamation par votre ancien employeur. Vous parlez d'une véritable descente aux enfers. Ça consiste en quoi ?
On perd son travail, on perd sa santé. Je suis resté sous traitement antidépresseur pendant 18 mois. J'étais suivi donc une fois par semaine pendant 3 ans. Hein. Et en plus de cela, c'est une période très solitaire puisque personne ne s'y intéresse au sujet. Ce n'est qu'avec les révélations Snowden que tout le monde commence à parler de surveillance et de surveillance de masse.
D'un point de vue professionnel, donc vous êtes licencié fin 2012, est-ce que vous arrivez à retrouver du travail? Comment ça se passe?
Pas du tout. Je me suis investi énormément dans la recherche du travail. J'ai des entretiens téléphoniques. Souvent, ça ne va pas plus loin. Il suffit de mettre son nom dans Google pour voir que votre ancien employeur considère que vous êtes menteur, que vous êtes minable. C'est totalement impossible de trouver de travail dans ce contexte.
Il y a des employeurs qui vous l'ont dit, on n'a pas confiance en vous, vous nous faites peur.
Non, ils ne disent pas comme ça. Ils disent c'est trop compliqué, ou appelez-nous quand les procédures sont terminées. Ou... J'ai eu un chasseur de tête qui m'a contacté pour un emploi dans un grand groupe français dont je ne dirai pas le nom. On a eu plusieurs entretiens en visioconférence, etc. Et je devais rencontrer les dirigeants à Paris un vendredi. Et le jeudi soir, elle me téléphone pour dire que tout est annulé. Les directeurs se sont rendus compte qui j'étais, et donc, fini.
Ça, ces refus, ces entretiens qui n'aboutissent pas ou qui n'ont pas lieu, ça vous est arrivé à de nombreuses reprises?
Une quinzaine. Ouais. Finalement, donc, le 9 février 2015, mon chômage s'arrête. Bah, il y a tous les tracas imaginables. Votre banquier qui n'est pas content, votre opérateur téléphonique vous coupe souvent. Pour tenir en 2014, j'ai dû louer ma chambre et le canapé où on est assis là, j'ai dormi là-dessus pendant 3 ans. Les mois passent et je trouve début janvier
2016.
Mais j'ai eu 4 mois de retard de loyer. Je suis vraiment au bord du gouffre. Dans quelques semaines, il fallait que je quitte mon appart, que je ne pouvais plus assumer, et que je me trouve sans domicile fixe. Voilà.
Donc il a fallu 3 ans pour retrouver un travail, donc, ouais. Comme rédacteur de manuel d'utilisation de logiciels, cette fois dans le milieu médical. Mmh. Est-ce que tout ça a eu des conséquences sur votre vie personnelle?
Oui, évidemment. Heureusement, j'étais divorcé à l'époque, parce que sinon, je le serais de toute manière. Et j'ai un peu perdu contact avec certains amis, puisque quand vous êtes dans un gouffre et c'est un peu compliqué, vous n'avez pas la même énergie pour aller vous amuser ou socialiser. Ou... C'est comme ça. Quoi.
Donc, vous avez gagné vos procès en diffamation au prud'homme. Ça vous a coûté combien en frais de justice?
On avoisine les 30 000 euros.
La moitié de ce que vous avez reçu au prud'homme a été passé en frais de justice à peu près?
Oui.
Ça a été très dur pour vous, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous regrettez d'avoir dénoncé ce que vous avez dénoncé?
Quand on est devant des tels faits, pour moi, c'était impossible de ne rien dire. Et j'ai aucun regret à ce sujet. C'est normal d'être secoué, qu'on apprend qu'on a documenté des livraisons de logiciels de surveillance de masse à Assad. Pour moi, ce n'est pas quelque chose où on pourrait se coucher le soir en se disant tout va bien. On peut faire des choses que on se dit après, j'aurais pu faire ça plus intelligemment, j'aurais pu gérer ça mieux, mais c'est une affaire humaine, c'est pas une gestion de... Je suis pas un professionnel de l'alerte, je suis un citoyen qui en a lancé une, c'est tout. C'est totalement anormal que des gens qui essayent d'être juste, qui essayent d'agir bien, se trouvent démunis, attaqués, poursuivis, rejetés. C'est terrible quand même, c'est le monde à l'envers.
Interception sur France Inter.
On a maintenant rendez-vous avec Philippe Pichon qui, lui, a des regrets. Philippe Pichon, ancien commandant de police. En 2008, il avait voulu dénoncer les dysfonctionnements du fichier de police STIC qui comprenait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'irrégularités. Après avoir saisi sa hiérarchie, le procureur de la République, il avait alerté la presse. Il avait notamment pour cela fait fuiter la fiche de Johnny Hallyday avec son accord. En 2009, à 39 ans, il a été mis à la retraite d'office pour, entre autres, non-respect du devoir de réserve. il travaille désormais comme cadre dans une société de promotion immobilière ici à Lille.
Bonjour, Philippe Pichon. Je vous invite à passer dans mon bureau.
Comment ça s'est passé pour vous dans les mois, dans les années qui ont suivi votre mise à la retraite d'office?
Dès le lendemain, je me suis pointé à Pôle emploi en expliquant ma situation. Je suis fonctionnaire de police, je n'ai plus d'emploi. Bon, vous regardez avec des yeux, bah, c'est pas possible, monsieur. Un policier, il est réputé avoir un salaire, un traitement, tout ce que vous voulez, une fonction à vie. Donc, ah bon, en plus, c'est par faute professionnelle. Enfin, pour l'instant, personne ne peut le dire, puisqu'il y a précisément un contentieux. Donc, surtout une mise à la retraite d'office, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans le cadre d'une faute grave, puisque la faute grave, c'est la révocation. La mise à la retraite d'office à 39 ans, elle a expliqué ça à l'agent de Pôle emploi, qui était fort sympathique, hein, c'est pas le sujet, mais qui comprenait pas ce qu'on lui racontait. Ben, monsieur, vous n'avez droit à rien. Et donc, du jour au lendemain, heureusement que votre épouse a un travail, mais vous devez très rapidement mettre en vente la maison, expliquer à vos gamins que on est dans une situation un peu particulière. Et donc, bah, les heures, les jours, les semaines sont matériellement, psychologiquement très difficiles.
Donc, pas d'allocation chômage?
Je n'y ai pas droit. Pas de RMI, puisque votre épouse gagne suffisamment pour être au-dessus du seuil, donc pas de RMI.
Vous dites que vous regrettez ce que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi?
Oui. Au-delà de l'aspect matériel et financier dont on parlait, se couper d'une profession qui vous tient à cœur, pour laquelle, j'aime pas le mot de vocation, puisque d'un point de vue intellectuel, j'aurais du mal à le documenter, mais en tous les cas, y avoir consacré autant de temps, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, avec des camarades et des collègues qui vous sont chers, avoir des perspectives de carrière intéressantes. Et puis je vous dis, la défense de l'intérêt général était quelque chose qui m'intéressait. Et donc,
est-ce que vous n'avez pas le sentiment malgré tout que vous avez contribué à mettre en lumière un problème qui a été débattu dans l'espace public?
Qui a été débattu et qui n'a pas été résolu. Donc j'allais vous dire, est-ce que ça justifie le sacrifice? La réponse est non. Et puis bah... je vois encore de temps en temps quelques papiers sortir sur le fichier, mais il me semble que toutes les questions que j'ai posées restent sans réponse.
Est-ce qu'au fond de vous-même, vous vous dites « j'aurais mieux fait de me taire » ?
Oui. Oui, et sans hésiter. Et si demain vous me dites « vous re-signez dans la police nationale », il n'y a aucune hésitation à 200%. Donc non seulement je ne le referai pas, j'aurais mieux fait de me taire.
On arrive au Parlement européen à Strasbourg, cet immense bâtiment de verre, ce matin un peu perdu dans la brume. Il y a les drapeaux des 28 pays membres qui flottent devant l'entrée. Et on vient ici parce qu'on est en train d'élaborer en ce moment, au niveau de l'Union européenne, une directive sur la protection des lanceurs d'alerte. On est dans une petite salle de réunion au Parlement européen. Derrière les vitres, on voit les traducteurs. Il y a des représentants de chaque groupe politique qui sont autour de la table. C'est la commission des affaires juridiques qui se réunit là. C'est elle qui discute, qui met au point la position du Parlement sur la protection des lanceurs d'alerte.
Bonjour à tous. Bonjour à nos collègues qui sont à Bruxelles en visio également. Bon, on commence, je pense que nous espérons, et nous souhaitons être la dernière réunion de Shadow Rapporteur sur la directive sur la protection des lanceurs d'alerte. On a quelques points qui restent ouverts à l'ordre du jour.
Virginie Rosière, députée européenne des radicaux de gauche. Et donc, rapporteur pour la directive sur la protection des lanceurs d'alerte au Parlement européen.
Pourquoi faut-il, selon vous, une législation européenne sur la protection de ces lanceurs d'alerte?
Déjà, en France, on a la loi Sapin 2 juste depuis 2016. Moi, j'étais assez contente de voir que la France devenait un des rares États membres qui protégeait les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, je crois qu'on est à quelque chose comme 7 ou 8 sur 28. Donc, on voit que c'est une minorité et ça avance lentement. Donc, du coup, si on laisse les États membres s'en saisir, ben, ça peut prendre très longtemps. Et puis, on voit aussi qu'on a des scandales qui sont de plus en plus transfrontaliers, européens. Ben, LuxLeaks, c'était le cas. C'est une entreprise américaine basée au Luxembourg qui travaille pour des multinationales qui opèrent dans toute l'Europe et qui emploient des salariés transfrontaliers français. Et donc, on voit bien qu'on peut avoir en plus des arbitrages qui se font entre le droit le plus ou moins protecteur, parce qu'on a affaire à des multinationales. Donc, on a intérêt à avoir un cadre européen homogène pour mieux protéger les lanceurs d'alerte, les sortir de l'insécurité juridique et puis être sûr qu'ils sont protégés partout.
Ce texte européen, il va désormais être discuté entre le Parlement européen et les États, le Conseil. Il n'est pas figé. En quoi est-ce qu'il pourrait améliorer ou non le niveau de protection offert par la législation française ?
Le texte de la Commission est assez proche dans l'esprit de la loi française. Simplement, le champ d'application couvert est un peu plus vaste. Donc, on aura une protection plus large quand le texte sera transposé, particulièrement pour les personnes qui sont sujettes à représailles, les employés directement, mais aussi possiblement des sous-traitants ou des entreprises contractantes.
On l'a entendu, ce qu'il manque souvent aux lanceurs d'alerte, au-delà des protections désormais offertes par la loi, c'est un soutien concret, immédiat. Et pour ça, la société civile se mobilise. Une vingtaine d'associations, dont Transparency International France ou encore Science Citoyenne, viennent de lancer la Maison des lanceurs d'alerte. Nous sommes à l'Assemblée Générale en cette fin d'année à Paris.
Bonsoir. Donc, je suis Antoine Deltour, donc l'une des sources de l'affaire Luxembourg-Lix. La très grande originalité de mon parcours de lanceur d'alerte, c'est que je m'en suis sorti. Je dis bien très très grande originalité, parce que c'est quand même très 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 rare parmi les lanceurs d'alerte. Et pourquoi je m'en suis sorti ? C'est parce que j'ai été très largement soutenu. Donc il y a eu un comité de soutien qui a rassemblé 71 organisations, 500 personnalités, 200 000 signataires, et qui a collecté des dizaines de milliers d'euros qui ont servi à financer ma défense. Et pourquoi j'ai été à ce point soutenu ? C'est parce que j'ai eu un bol considérable. Et donc l'enjeu pour moi de cette maison des lanceurs d'alerte, c'est de faire en sorte que le soutien apporté aux lanceurs d'alerte ne dépende pas d'un bol tel que je l'ai eu, mais dépende d'un fonctionnement normal de la société civile qui sera celui de la maison des lanceurs d'alerte. Alors, le programme est ambitieux et les besoins sont immenses. Hein, il y a des centaines, peut-être des milliers de lanceurs d'alerte qui attendent un soutien concret. Je vous remercie.
Antoine Deltour, vous venez d'être élu comme membre du conseil d'administration de cette maison des lanceurs d'alerte. Vous êtes à l'origine des LuxLeaks en 2014, ces révélations sur les pratiques d'évitement fiscal au Luxembourg. Vous aviez pour cela fait fuiter des documents du cabinet d'audit pour lequel vous travailliez à l'époque. Antoine Deltour, l'idée de cette maison des lanceurs d'alerte, c'est de leur apporter une aide concrète. De quelle façon ?
La maison des lanceurs d'alerte va soutenir les lanceurs d'alerte de la manière la plus concrète possible. Et l'un des besoins les plus fréquents des lanceurs d'alerte, c'est un accompagnement juridique, parce que malheureusement, beaucoup de lanceurs d'alerte font l'objet de représailles judiciaires. Après, c'est aussi une assistance psychologique. Voilà, parce que les lanceurs d'alerte sont souvent isolés et ont besoin de parler, tout simplement, d'échanger sur leur situation difficile. Et l'aide, c'est aussi une aide financière. Il y a un fonds de dotation qui a pour but de collecter des dons pour aider matériellement le plus de lanceurs d'alerte possible.
Pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Vous n'avez pas eu à payer de lourdes conséquences après avoir lancé votre alerte.
Les conséquences auraient pu être très lourdes. Puisque donc j'ai fait l'objet de poursuites pénales qui auraient pu me conduire en prison. La médiatisation de l'affaire, mais également l'actualité autour du fond de l'alerte, à la fois sur l'évasion fiscale et sur la protection des lanceurs d'alerte, a quand même tout à fait joué en la faveur d'une issue favorable du procès.
Vous aviez anticipé aussi d'une certaine manière une reconversion professionnelle. Vous n'étiez plus au sein du cabinet luxembourgeois dans lequel vous travaillez lorsque les révélations ont été faites. Vous étiez devenu fonctionnaire.
Voilà, moi, en fait, j'avais fait le choix de démissionner et de changer d'horizon professionnel. Donc, du coup, j'ai pas eu à subir ce changement d'orientation. Mais malheureusement, voilà, il faut que les lanceurs d'alerte, quand ils se lancent dans cette démarche, soient souvent prêts s'ils ne parviennent pas à préserver leur anonymat, à devoir changer d'emploi.
Est-ce que vous ne redoutez pas, via cette maison des lanceurs d'alerte, de venir en aide parfois à des affabulateurs ?
Alors, c'est toute la difficulté que rencontrent toutes les organisations qui ont pour ambition d'aider les lanceurs d'alerte, c'est comment trier entre lanceurs d'alerte qui apportent des informations authentiques et d'intérêt public, et des lanceurs d'alerte qui font de la paranoïa et qui ont des informations parfois délirantes. C'est un travail qui prend du temps. Hein.
Quel conseil vous donneriez pour minimiser les désagréments en lançant une alerte ?
Bah, le meilleur des conseils, c'est de se faire accompagner le plus tôt possible. Donc en allant voir un avocat, en allant voir donc soit le défenseur des droits, soit consulter la maison des lanceurs d'alerte ou les différents guides qui peuvent exister. Et donc voilà, prendre conseil avant de faire un faux pas, mais ne pas renoncer, parce que souvent vivre avec cette incohérence d'être témoin de pratiques dysfonctionnelles et de quand même les tolérer, ça met vraiment mal à l'aise et on ne peut pas tenir ça très longtemps. Souvent, ça conduit à la dépression, donc vaut mieux lancer l'alerte et on se sent mieux après.
Lanceur d'alerte, parole à haut risque, c'était un reportage de Jérôme Jadot. François Rivalan a assuré la prise de son. Violaine Ballet a réalisé cette émission, assistée de Gabriel Debray. Mixage, Sacha Trop. À la semaine prochaine.
Merci Vanessa Descoureaux. Et dimanche prochain, Interception vous propose un reportage de Géraldine Allo. En cette période de fête de Noël, Géraldine vous offre de questionner notre consommation en faisant un point sur l'obsolescence programmée. Comment la contrer, ou au moins comment la limiter ? Ce sont les questions auxquelles répondra ce reportage d'Interception la veille du réveillon.